Il y a différentes façons de voir les microbes. Soit on les considère comme des ennemis redoutables, capables d'engendrer les pires maladies, soit au contraire, ils apparaissent comme des compagnons façonnant les êtres vivants avec des fonctions variées et souvent vitales. Le microbiologiste Marc-André Sellos publie chez Actes Sud « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». Il est mon invité dans un instant pour nous emmener dans un périple à travers le monde vivant et pour nous faire découvrir les richesses microbiennes et les différentes interactions qui nous entourent. Vous pouvez lui poser dès maintenant toutes vos questions sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, Axel, aujourd'hui une publication qui fait remonter aux origines de la domestication des chats.
Oui, pour la première fois, des chercheurs ont été capables de tracer les grandes migrations de chats domestiques dans l'histoire. On ira ronronner en Égypte et en Asie du Sud-Ouest avec le biologiste Thierry Grange.
Et puis dans la dernière partie, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy qui s'est intéressé cette semaine à une étude sur l'appétit. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier avec Benoît Tonson.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour.
À quoi ressemblerait le monde sans microbes?
Ce serait pas le monde.
Oui.
Ce serait pas le monde. Nous, on le verrait peut-être pareil, mais il ne fonctionnerait pas pareil, ça c'est certain. Et ce serait une très mauvaise nouvelle.
Ouais, il y aurait absolument rien. Aucun être vivant ne pourrait exister ou pas?
Non, parce que tous naissent d'une pâte microbienne qui les construit, les habite et les aide à fonctionner, à se nourrir, à se défendre.
Ouais, et nous sommes de bonnes pâtes microbiennes d'ailleurs, nous autres, les humains, mais pas seulement. Hein.
Non. Plantes, animaux, humains, et même les civilisations sont construites par les microbes.
Voilà, c'est ce monde invisible qu'on va explorer avec vous dans un instant pour en découvrir plutôt l'aspect positif. Et vous pourrez répondre également aux questions des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Et du nouveau sur l'histoire de la domestication du chat depuis 10 000 ans aujourd'hui à la une de la science. Pour la première fois, un groupement international de recherche a réussi, grâce à des données génétiques, à suivre la dissémination géographique des chats domestiques depuis 9 000 ans. Résultats publiés dans la revue Nature et qui font apparaître deux événements majeurs dans l'histoire commune des chats et des hommes, deux vagues de populations félines, avec chacune leur spécificité. On va le voir avec vous, Thierry Grange, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste moléculaire, directeur de recherche CNRS au laboratoire épigénome et paléogénome, c'est à l'Institut Jacques Monod à Paris. Vous êtes co-auteur de ces travaux. Alors, à quand remontent les premières traces de rapprochement entre les chats et les hommes?
Alors, les premières traces remontent de l'archéologie. Et particulièrement, en fait, il y a eu deux séries d'observations qui ont été faites et qui indiquaient deux régions différentes qui pouvaient avoir leur importance par rapport aux relations homme-chat. Mmh. Les premières observations, en fait, remontent à peu près à 9500 ans sur une île à Chypre où on a trouvé un chat dans une tombe avec un enfant. Et l'île de Chypre étant bien isolée du continent, c'était difficile d'imaginer que le chat aurait pu aller là à la nage. Donc le chat a dû être emmené dans des bateaux par des êtres humains. Et là, 9500 ans, on est au début de l'invention de l'agriculture et le début de la domestication des animaux dans le croissant fertile. Et les hommes, en domestiquant les plantes, ont commencé à accumuler des graines. Et les graines ont attiré des rongeurs. Les rongeurs, c'était une peste. Et les chats sont venus manger les rongeurs parce que pour eux, la peste, c'était de la nourriture. Et donc, cet arrangement mutuel entre l'homme et le chat, en fait, servait les intérêts de chacun, de façon bien comprise. Et donc, ils ont commencé à cohabiter.
Alors, vous dites cohabiter, c'est-à-dire que c'est une collaboration entre le chat et l'homme autour de ce rongeur. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une première domestication à ce moment-là?
Domestication, c'est un mot qui est difficile à utiliser dans ce contexte-là, parce que domestication, ça veut dire qu'on a commencé à... L'homme a commencé à isoler génétiquement une partie des animaux sauvages, et a commencé à sélectionner des caractères qui les intéressaient. Or, dans le cadre de la relation entre l'homme et le chat, c'est pas du tout évident que ce soit passé comme ça. En fait, il y a des transformations progressives des chats, une sélection progressive des chats qui s'accommodait mieux de la présence de l'homme, mais ça aurait pu se faire aussi tout à fait spontanément, naturellement, parce que qu'il suffisait, les chats qui auraient s'accommodé le plus de la présence de l'homme avaient plus à manger, puisqu'il y avait des souris dans les environs, et donc pouvaient en fait être avantagés, se reproduire mieux, etc. Donc c'est même pas sûr que l'homme ait cherché à avoir des chats plus sympas autour de lui. Les chats plus sympas se sont simplement venus plus souvent.
Alors, dans ces travaux que vous publiez, ce que vous cherchez à raconter, c'est l'histoire de cette cohabitation sur 10 000 ans. Comment est-ce que vous avez fait pour rechercher des traces des chats autour des hommes sur cette longue période de temps ?
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de travaux de beaucoup de collègues archéozoologues qui ont identifié des ossements de chats sur les différentes fouilles qu'ils ont produites. Et donc, on a mis en place un réseau de nombreux collaborateurs qui nous ont fourni des échantillons à partir desquels on a pu faire des prélèvements d'une partie de l'os de façon à le réduire en poudre et de façon à en extraire l'ADN ensuite.
Ah, vous avez vraiment, il y a des traces d'ADN qui ont pu passer comme ça les siècles aussi facilement ?
Alors aussi facilement, disons, plus il fait froid, plus c'est facile.
Ouais.
Et or, ce qui était intéressant, c'était un endroit, c'est les endroits où il fait chaud particulièrement. Donc en fait, facilement, c'est...
Ouais. Il y a quand même une dégradation.
En fait, c'est de l'ADN qui est de toute façon, même dans les régions froides, qui est de toute façon très dégradé.
Ouais.
Mais alors là, il est vraiment très dégradé.
Mm-hmm.
Et il n'en reste pas beaucoup. Et on a beaucoup d'autres ADN, comme des ADN des microbes de l'environnement, qui vont se retrouver dans les eaux, et on va retrouver uniquement des traces. Souvent, sur ce type d'eau, c'est moins de 1% qui va être de l'ADN de l'origine.
Mais quand même, c'est très utile, donc, du coup, pour...
On peut arriver à en extraire un peu. Ça demande des techniques spécifiques qui permettent de... C'est de la génétique moléculaire, mais c'est de la génétique moléculaire poussée pour aller chercher des traces de matériel très dégradé.
Alors au final, vous avez pu analyser l'ADN de plus de 200 chats anciens. Qu'est-ce qui ressort de cette grande étude génétique ?
Alors en fait, ce qui ressort est quelque chose qui nécessitait d'avoir beaucoup de chats. Parce que ce qu'on observe, c'est en fait des changements progressifs de la structuration qu'on appelle phylogéographique de ces populations de chats. C'est-à-dire que, en fait, les animaux, quand ils se déplacent relativement peu, quand ils sont à des endroits différents, ils vont accumuler des mutations génétiques différentes. Et donc, on va avoir des signatures génétiques dès leur localisation géographique. Et en fait, ce qu'on observe avec les chats domestiques actuels, c'est qu'il n'y a plus du tout de structuration phylogéographique parce que les chats ont fait de grands mouvements au travers de la planète. Et ce que notre étude a permis de montrer, c'est en fait c'est l'histoire de ces reconfigurations de structurations phylogéographiques, donc c'est l'histoire des mouvements des chats sur la planète au moment où ils ont commencé à interagir avec l'homme, parce que le chat est un animal territorial, il reste dans son coin, il bouge pas beaucoup à l'état sauvage, et quand il commence à interagir avec l'homme, et ben il va avoir un comportement qui va suivre le comportement humain qui lui bouge plus.
On le disait en introduction, c'est donc deux grandes lignées, deux grandes vagues de populations de chats que vous avez trouvées. D'où est-ce qu'elles sont venues ?
Alors donc en fait, ce qu'on a pu observer, c'était qu'il y avait des chats en Anatolie avec ces êtres humains qui ont inventé l'agriculture. Or, donc à une époque qu'on appelle le néolithique, donc qui correspond à cette invention de l'agriculture. Et ces populations humaines d'Anatolie particulièrement ont migré en Europe il y a à peu près 6-7 000 ans. Ces grandes migrations ont introduit des changements majeurs de la structuration des populations humaines. Il y a eu une grande arrivée humaine. Il y a eu aussi une grande arrivée de beaucoup d'animaux domestiques, c'est-à-dire la chèvre, le mouton, la vache, le cochon, tout ça sont arrivés en Europe lors de cette migration-là. Et dans ce qu'on voit, c'est que les chats anatoliens sont aussi arrivés en Europe à cette époque-là. Et on va retrouver donc la signature génétique de ces chats anatoliens. Donc ce qui montre bien, ce qui confirme l'observation qui avait été faite sur un cas particulier sur l'île de Chypre, qui devient une observation générale de l'interaction du chat au néolithique avec les humains. Ensuite, on va voir une deuxième vague. Et c'est ça, c'était quelque chose qui était... moins attendu d'une certaine façon, et en même temps pas si inattendu que ça, puisque on savait depuis longtemps que l'Égypte était une zone importante pour la domestication du chat, et même en fait avant que l'on ait fait la découverte sur l'île de Chypre, les gens avaient tendance à privilégier même l'Égypte comme le centre stratégique de
la domestication.
Ouais. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même quelque chose d'important qui s'est passé en Égypte, parce que à l'époque de l'Antiquité classique, les chats égyptiens vont se retrouver disséminés abondamment partout. Et même en Anatolie, par exemple, on va avoir la moitié des chats qui vont être en interaction avec l'homme vont devenir des chats égyptiens. Ouais. Donc c'est une reconfiguration majeure qui signifie qu'il s'est passé quelque chose de particulier avec ces chats égyptiens.
C'est le chat de salon quasiment qui va naître en Égypte.
Est-ce que oui, justement, vous avez une explication pour ce succès du chat égyptien? Est-ce qu'il était plus mignon ou est-ce que c'est une autre raison?
Alors, on est absolument dans les hypothèses et les spéculations, mais c'est effectivement une hypothèse très séduisante. En fait, quand on compare le génome du chat moderne et du chat moderne sauvage et du chat moderne domestique, on peut identifier les gènes, les parties du génome qui ont été sélectionnées sur la lignée domestique. Donc on peut arriver à dire quelque chose de qu'est-ce qui a changé lorsque le chat est devenu domestique d'un point de vue génétique. Et quand on regarde ce qui a changé, en fait il a changé très peu. Si on compare par exemple par rapport au chien avec le loup, le chien et le loup c'est énorme, le chat c'est très peu. Mais le très peu concerne en grande partie des gènes qui sont impliqués dans le développement d'une structure du cerveau, qui va permettre à élaborer la structure du cerveau, qui s'appelle la crête neurale. Et en fait, c'est des mutations dans les gènes qui sont impliqués dans cette voie-là du développement ont été identifiées dans beaucoup d'animaux domestiques et on pense qu'elles sont liées au changement de comportement qui caractérise les animaux domestiques, qui deviennent plus
proches encore des hommes.
Plus proches de l'homme. Donc, probablement, le gros de ce qui a changé dans le chat, c'est la proximité avec l'homme. Alors, effectivement, quand on considère ça plus le grand succès, c'est tentant de penser que c'est la proximité de l'homme, d'autant plus que l'iconographie égyptienne montre en fait une évolution au cours du temps qui montre un rapprochement très net du chat avec l'homme.
Voilà, donc ce chat câlin, comme vous avez titré Axel sur Twitter tout à l'heure. Merci beaucoup Thierry Grange pour ces informations, ces résultats donc qui paraissent dans la revue Nature et dont vous êtes l'un des auteurs, vous êtes biologiste moléculaire. Merci beaucoup à vous d'être venu dans notre studio et puis Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, 10 nouvelles exoplanètes potentiellement habitables qui viennent d'être découvertes par l'insatiable télescope Kepler, nouvelle moisson qui compte 250 planètes au total découvertes en dehors de notre système solaire, dont 10 donc sont à une distance de leur étoile permettant la présence d'eau liquide. Cette chasse porte le compteur d'exoplanètes détectées par Kepler à 4034. La diarrhée qui fait plus de bien que de mal, c'est la conclusion inattendue d'une étude menée par des chercheurs de Boston sur la souris. Bien sûr, l'utilité évidente de cette réaction biologique qui recrute l'eau de notre corps vers nos intestins et de débarrasser l'organisme d'une infection le plus vite possible. Mais alors, est-ce vraiment une bonne idée de vouloir bloquer ces symptômes avec des antidiarrhéiques? Eh bien, les chercheurs ont comparé les conséquences d'une infection intestinale chez des souris traitées pour ne pas avoir la diarrhée contre des souris témoins. Et ils montrent que l'organisme des rongeurs met plus longtemps à lutter, à éliminer les bactéries quand la diarrhée est bloquée, mais aussi que les dégâts tissulaires sont bien plus importants. Reste encore à montrer que ces conclusions sont valables pour les hommes en cas d'infection épisodique avant de changer nos pratiques. C'est un sujet dont nous parlerons d'ailleurs avec notre invité dans un instant. Et puis lire le mot soleil fait rétrécir nos pupilles. Autrement dit, le sens d'un mot est suffisant pour déclencher une réaction physiologique. Cette découverte sur le lien étroit entre langage et cerveau nous vient de chercheurs français et suédois. Les auteurs suggèrent que les images mentales créées à la lecture d'un mot évoquant une forte lumière ou au contraire une obscurité suffisent à déclencher les contractions réflexes des muscles de nos yeux. Des résultats préliminaires publiés dans la revue Psychological Science et qui donneront lieu rapidement à d'autres études dans plusieurs langues, mais aussi pour d'autres réactions corporelles. Le début peut-être de nouvelles découvertes sur le traitement du langage par notre cerveau et une expérience que vous pouvez tester chez vous. Et le monde des microbes dans un instant avec Marc-André Sellos.
Est-ce que tu te sens en ville? Tu es perché bien loin dans le réseau social. Animal, tu vis dans la jungle et tu cherches une place quand la lumière du jour te révulse, mais celle des réverbères te traverse l'esprit. Et quand la nuit tombe, tu sens ta gorge qui se serre. Est-ce que tu ressens la sensation bizarre que tu as quand tu entres chez toi, loin des regards de la ville? Et là tu tournes en rond, alors tu te dé
décide à sortir. Tu prends l'ascenseur et dans la rue Saint-Denis, tu tombes sur une pute qui te dit:
bah alors toi, qu'est-ce que tu fous là? Viens voir mon garçon. C'est pas la première fois que je te vois ici. Pourquoi tu passes toutes les soirs à boire et à errer dans les rues à 3h du matin, de bar à l'after et boîte de nuit? Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes soirées. Tu enfiles ton blouson de cuir, les lunettes, les bottes qui raclent le sol. Tu prends l'ascenseur et là, tu pisses contre un mur. Pour toi, la nuit sera blanche. Tu t'enfonces dans les rues de Paris tragique.
Lorsque je déboule à minuit au faubourg, dis-moi, est-ce que tu t'apprêtes à sortir sous les menaces de la ville? Est-ce que tu recherches l'amour?
SSD, c'était la femme à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Une autre vision de la vie sur Terre avec le monde des microbes qui nous entourent, c'est ce que nous allons découvrir cet après-midi avec vous, Marc-André Selloz. Vous êtes microbiologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, mais également à l'Université de Gdańsk en Pologne et à Viçosa au Brésil, et vous êtes président de la Société Botanique de France. Ce livre paraît, vous le signez, Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations, rien que ça. C'est aux éditions Actes Sud avec une postface de Francis Allais. Alors c'est vrai que c'est intéressant de regarder la vie par le biais des microbes, parce que c'est une façon même indispensable au fond d'observer le monde vivant et de comprendre cette réalité-là. Sans les microbes, vous le disiez tout à l'heure, la vie au fond n'existerait même pas.
Mais c'est surtout que la vie est microbienne en termes de nombre d'espèces, en termes de biomasse également, hein, c'est-à-dire de masse vivante, mais aussi en termes de diversité de modes de fonctionnement qui structurent notre environnement. Ce sont des microbes qui font le monde qui nous entoure. Et il faut réaliser ça, c'est un point vraiment important en biologie. Nous sommes trop gros pour faire de la biologie. C'est acté dans les salles de TP, hein, où la première chose qu'il y a, c'est un microscope ou une loupe binoculaire. Si on était plus petit, on verrait qu'en fait, il y a quelques gros organismes, mais qui ne sont que l'écume d'un océan microbien, que tout est environné, colonisé de microbes, et que même que dans certains milieux, il n'y a que des microbes. Prenez une goutte d'eau, c'est un écosystème microbien avec plus d'un millier d'espèces de bactéries dedans, plein d'algues, que vous voyez pas à l'œil nu parce qu'elles sont unicellulaires, sont toutes petites. Voilà, la diversité vivante, elle est microbienne. Et c'est pas étonnant que de temps en temps, dans leur vie, les gros organismes rencontrent les petits, puisqu'ils sont partout, ces petits organismes-là.
Donc le monde visible ne montre pas grand-chose de cette réalité-là, finalement.
En biologie, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Oui. Donc il faut aller dans les microscopes.
Voilà, et puis aussi être vigilant à des odeurs, à des apparences, à tout un tas d'indices indirects que j'essaie de raconter dans le livre, qui nous crient, quand on sait les lire et leur donner un sens, qu'en fait les microbes sont là, et c'est eux qui sont opérationnels dans l'environnement, d'accord, mais aussi au sein même de nous.
Alors c'est ça, on ne les voit pas, mais il y a ces signatures hein, qui sont très caractéristiques dans certains cas de cette vie microbienne.
Et que de façon pas étonnante, la science a mis du temps à découvrir comme des signatures de ça.
Ouais, alors, vous voyez pas. Pierre nous dit justement, les microbes sont tous des alliés de l'homme, certains ne sont-ils pas des ennemis? Alors on voit d'ailleurs plutôt les choses dans l'autre sens d'habitude, hein. On voit plutôt les microbes comme des ennemis, et peu leurs vertus au fond, alors qu'elles sont évidemment très nombreuses.
Alors nul ne songe à nier la maladie. Ça, c'est évident. Et on a fait des grands progrès, justement, en éliminant les microbes de la proximité de l'homme. Et on se rend compte maintenant qu'à force d'avoir poussé l'hygiène trop loin, on commence à avoir des problèmes d'aliments, par exemple, qui sont complètement stériles, mais qui se contaminent facilement, éventuellement, par des pathogènes. Alors que c'était pas le cas quand ils étaient occupés par une flore bénigne. On commence à avoir des problèmes de maladies, alors même que les maladies propagées par les microbes régressent dans nos civilisations. Des maladies comme l'allergie, les maladies auto-immunes qui se développent simplement parce que notre système immunitaire, son fonctionnement est co-construit avec les microbes. Si vous avez trop peu de microbes dans votre environnement quand votre système immunitaire se développe, eh bien, votre système immunitaire commence à fonctionner mal. Donc, nul ne nie la maladie et les microbes peuvent être pathogènes, dangereux, tueurs. Mais, je ne mourrai qu'une fois. Je ne serai décomposé par des microbes qu'une fois. Tous les jours quand je me lève, si je me lève, tous les jours quand je parle, on verra pourquoi tout à l'heure, parce que c'est des microbes qui font mon énergie, tous ces jours-là, ils sont construits par des microbes qui, pour le coup, sont des copains, parce que sinon, il n'y aurait pas ces jours-là.
C'est ça, oui. Ah, donc, il y a la maladie, il y a le pourrissement, hein, qui sont le signe des interactions négatives, on peut dire, hein, des microbes, mais il y a aussi tous les autres aspects qui sont absolument nécessaires à la vie. Donc, au fond, on peut dire que c'est quasiment aussi cette alternance qui est indispensable. L'un ne fonctionne pas sans l'autre.
Alors, je parlais tout à l'heure de la respiration. Tiens, on peut tout de suite mettre une identité là-dessus. On sait que les parties de nos cellules qui font la respiration et qu'on appelle les mitochondries, ce sont en fait des microbes qui sont dans nos cellules depuis des lustres, qui se transmettent de génération en génération par la cellule maternelle, l'ovule dont nous sommes tous issus. On respire pas et on peut pas vivre sans ces bactéries qui sont tapies au fond de nos cellules et qui font la respiration pour nous. Mais elles non plus. Il y a longtemps que ces bactéries-là n'existent plus dans le milieu. Un ancêtre très lointain qui est commun à nous et aux champignons et à plein d'animaux a acquis ces bactéries et elles sont devenues complètement dépendantes à cette vie dans nos cellules. C'est une dépendance réciproque.
Et ça, il y a beaucoup d'exemples évidemment qui nous entourent dans tous les domaines puisque c'est l'objet de ce livre, les microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Alors qu'est-ce que vous entendez par civilisation? Vous parlez d'humains tout simplement?
Je veux dire qu'on interagit avec des microbes individuellement. Je vous ai parlé de mes mitochondries à l'instant, j'ai aussi des bactéries sur ma peau, dans mon tube digestif, on parle beaucoup du microbiote intestinal. Mais il y a aussi tous ceux avec lesquels nous interagissons collectivement. Par exemple, certains d'entre nous font du vin avec des levures et des bactéries. Certains d'entre nous font du fromage avec des champignons et des bactéries encore. Alors c'est pas moi qui vis avec ces organismes-là, mais collectivement nos sociétés se sont construites avec des pratiques qui est pratique culturelle, qui s'appuie et qui se sont appuyés bien avant qu'on les connaisse d'ailleurs sur des microbes. C'est essentiellement historiquement la fermentation alimentaire. Et ça nous a aidé, on va peut-être y revenir, à approcher des sources de nourriture lors de la domestication des céréales par exemple, du chou ou des vaches pour faire du lait. Ça nous a permis d'approcher des aliments qui étaient inhabituels pour nous et qui pouvaient présenter des formes de toxicité. Le lait par exemple, on ne le digérait pas parce qu'on ne digérait pas le lactose. Mais avec des bactéries qui fermentent le lactose, le fromage ou le yaourt deviennent comestibles. Et nos ancêtres qui ne toléraient pas le lactose ont pu comme ça avoir accès au lait. Les céréales contenaient des molécules qui ont la propriété de nous déminéraliser et de bloquer le phosphate dans le tube digestif. C'est ce qu'on appelle des phytates. Manger trop de céréales, c'était toxique, ça déminéralisait. On voit bien d'ailleurs les incidences que ça avait sur le squelette. En faisant du pain avec du levain, les bactéries détruisent ces phytates, d'ailleurs pour libérer elles-mêmes le phosphate et les sels minéraux, hein. Pour leur propre compte, et donc du coup les céréales deviennent comestibles. Donc vous voyez, des aliments civilisationnels comme le lait, le chou avec la choucroute, le chou sauvage était toxique, hein. Les céréales, tous ces aliments qui avaient des formes de toxicité, on les a arrondis pour notre consommation avec des microbes.
Ouais. Mais on savait qu'il y avait des microbes ou pas? C'est-à-dire qu'on a utilisé ces aliments, mais est-ce qu'on en comprenait vraiment le fonctionnement intrinsèque avec ces micro-organismes ou pas du tout?
Déjà, on les avait pas vus. Alors on avait des pratiques des fois de réensemencement, hein. Par exemple le yaourt, tout le monde sait bien qu'on prend un peu de yaourt existant, on le remet dans du lait et ça refait du yaourt. Mais on n'avait pas vu les microbes. C'était des pratiques empiriques qui se sont avérées être saines.
Et efficaces.
Efficaces. Elles ont d'autres avantages, hein. Ces microbes qui occupent le terrain empêchent les pathogènes de s'installer. En plus, comme ils sont vivants, Ben, ils sont bourrés de vitamines. Alors même que l'aliment que vous avez stocké, les céréales par exemple, ben lui, les vitamines se sont altérées. Donc, globalement, ces caractéristiques positives ont été repérées, les habitudes sont prises avant que les microbes n'aient été repérés. Mais ils sont tellement partout.
Oui.
Qu'on ne peut pas éviter de les croiser.
Alors c'est ça, c'est leur nombre hein, qui fait vraiment justement un des avantages justement des microbes. Il y a quoi ? Il y a leur nombre, leur diversité aussi, et leur taille.
Bah oui, alors
ça, c'est pour ça qu'ils sont nombreux d'ailleurs. La carte d'identité idéale des microbes.
C'est ça, c'est les trois grands aspects. Bon, ils sont tout petits, bon, alors ça c'est un fait, hein, mais ça leur permet de se multiplier facilement, parce qu'ils ont peu de besoins finalement pour donner une nouvelle cellule, par exemple. Ils sont extraordinairement nombreux, non seulement en nombre de cellules, donc il faut penser que chacun d'entre nous contient 1 milliard d'individus, de cellules d'une espèce de bactérie du tube digestif qu'on appelle Escherichia coli. Il y a donc 1 milliard de milliards, il y a 10 milliards de milliards d'Escherichia coli sur Terre, puisque nous sommes 10 milliards. En gros, hein, en arrondissant. Ça dépasse l'entendement, c'est des populations colossales. Le nombre d'espèces est également énorme, on n'en finit pas de faire le catalogue. Et puis, finalement, ils ont des moyens de vie extrêmement variés. Il y en a qui sont capables de vivre, par exemple, en faisant réagir du fer et de l'oxygène, ou du soufre et de l'oxygène. Ils ont des niches écologiques, on dit techniquement, ou des métabolismes, si on veut le dire encore d'une autre façon, qui sont incroyablement plus divers que ne le sont, par exemple, les métabolismes des animaux ou des plantes.
La biodiversité, au fond, c'est presque un mot qui a été inventé pour les microbes, non ?
Ben, pas consciemment, parce que ça a été... Si vous tapez biodiversité sur Google, vous verrez que des pandas, des lions, des fleurs... Bon, mais effectivement, la biodiversité, nous ne la voyons pas, et en fait, elle est microbienne. Mais il y a mieux, c'est que la biodiversité que nous voyons, elle est aussi construite par les microbes.
Et nous ne sommes jamais seuls, c'est le titre de votre livre, Marc-André Sellos, vous êtes notre invité, et les auditeurs nous rejoignent franceinter.fr. Avec Her Song.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Marc-André Sellos, jamais seul chez Actes Sud pour découvrir ce monde des microbes. Justement, qu'est-ce qui caractérise également tous ces microbes qui nous entourent ? Est-ce que ce sont ces échanges permanents ? Est-ce qu'on peut parler d'une communication, d'interaction ?
On peut pas ne pas parler d'interaction. En fait, c'est quelque chose qui émerge dans la biologie moderne. On a longtemps fait de la biologie des organismes. On parle souvent de physiologie des organismes. Et on se rend compte aujourd'hui que Et ça, la pensée occidentale, qui voit les individus dans la société et qui les a transposés finalement en organismes dans la biologie, a du mal à se faire à cette idée qu'en fait, beaucoup des fonctions qu'on attribue aux organismes sont en fait des fonctions qui sont construites avec autrui. Par exemple, il y a une chose toute bête qu'on découvre aujourd'hui sur des souris qu'on a élevées sous bulles complètement sans bactéries, c'est que la structuration de leur système nerveux et de là leur comportement n'est pas du tout le même que des souris qui ont des bactéries. D'ailleurs, quand on a des petites qui sont nées sous bulles et qu'on les réinfecte rapidement avec tout un ensemble de bactéries bénignes de souris, elles recommencent à être comme des souris normales.
Ah oui, donc ça va très très loin au fond, parce que ces bactéries, ces microbes donc, influencent aussi notre façon d'être,
notre développement humeurs. Et notre façon d'être. Alors, c'est vrai que c'est une influence ordinaire, parce que tous, à la naissance, que nous soyons d'ailleurs des plantes ou des animaux, nous sommes colonisés. Donc cet effet, il est toujours acquis. On ne le révèle que justement quand on arrive à avoir, en milieu complètement artificiel, des organismes non contaminés. Et on révèle en fait que plein de fonctions sont co-construites et que des fonctions, donc bien sûr de nutrition, on l'évoquait tout à l'heure pour la nutrition de l'homme, des fonctions de protection, mais aussi des choses comme le développement et chez les animaux le comportement. D'où d'ailleurs, aujourd'hui, on commence à penser à des bactéries qui pourraient rendre heureux ou rendre pas heureux.
Il y a eu les gènes, maintenant il y a les bactéries. Voilà, on passe dans une autre ère. Mais c'est vrai qu'il y a des recherches très importantes dans ce domaine aujourd'hui, et ça ouvre des perspectives tout à fait nouvelles, parce que évidemment le microbiote très généralement a été popularisé depuis quelque temps, mais ça correspond quand même à une réalité scientifique.
Ah oui, enfin c'est vraiment une vision moderne émergente que la puissance de cette interaction. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup effectivement du microbiote de notre intestin. En fait, moi j'essaie dans le livre d'élargir un peu le cadre. Nous en avons aussi sur la peau, dans les oreilles. Vous seriez étonné, par exemple, de savoir que si on n'a pas le nez colonisé par des bactéries, on ne sent pas de la même façon. C'est encore ce que nous montrent les souris sans bactéries. Mais les plantes aussi sont complètement colonisées par ça. Donc il n'y a pas que le tube digestif de l'homme, il y a tout l'organisme. Il n'y a pas que l'homme, il y a tous les animaux, toutes les plantes. En fait, en réalité, cette interaction, et notamment l'interaction avec les microbes, c'est quelque chose d'universel. Et les microbes sont loin d'être que dans un sac du tube digestif de l'homme.
Et c'est le monde vivant, tout simplement, qui est caractérisé par ses fonctions et ses interactions microbiennes. Marc-André Sellos, les champignons, les virus, les bactéries, là on a bien résumé déjà le monde bactérien, a priori.
Ah, le monde microbien, plus
microbien,
exactement.
Microbien, pardon,
microbien. Oui, les microbes, c'est tout ce qui est petit, microbi, en grec, ça veut dire des petits vivants. Et c'est ceux qu'on ne voit pas, au moins qu'on ne voit pas l'essentiel du temps. Parce que vous commencez à sentir que comme on voit des animaux et des plantes qui sont construits par des microbes, on voit un peu les conséquences de leur existence, d'une certaine façon. Mais, effectivement, ils sont petits et ça peut être soit des petits filamenteux, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle les champignons, qui font des filaments microscopiques, soit des petits unicellulaires, et c'est surtout des bactéries ou des choses qu'on appelle aussi les protozoaires, comme les amibes ou les paramécies, qu'on peut relativement facilement voir au microscope, mais qu'effectivement, dans notre quotidien, on ne voit pas, alors que franchement, ils sont partout là. Je suis sûr que dans le studio, ils nous écoutent.
Ah oui, il y en a même sous la bouche, certainement, en train de parler devant ce micro. La question des lichens, tiens, on va l'aborder avec un extrait de l'émission Silence ça pose sur France 5.
J'aimerais savoir ce que c'est que le lichen. C'est pas un animal, c'est pas un végétal non plus. C'est une sorte de composition assez improbable.
Assez particulière, tout à fait. Alors, les lichens appartiennent aux champignons, au règne des fonges. Mais en fait, ils ont la particularité d'être un organisme double avec un champignon mélangé avec une algue. Et ça, c'est tout à fait particulier.
Une algue ?
Une algue ou une cyanobactérie, tout à fait.
Ils viennent de la mer ?
Alors, non, on n'en trouve pas dans la mer, mais grâce à cette symbiose, à ce partenariat entre un champignon et une algue, ils peuvent coloniser quasiment tous les types de supports et résister à des températures extrêmes, par exemple.
Elle s'appelle Séverine Stowe, elle est coordinatrice de l'Observatoire des bryophytes et des lichens de Basse-Normandie, Marc-André Sellos. Pourquoi les lichens ont posé problème aux scientifiques ?
Au début, ils ne posaient pas de problème. On ne savait pas très bien s'il fallait mettre avec les algues ou avec les mousses dans la classification, mais enfin, un lichen, c'est un lichen. Eh ben non. Au milieu du 19e siècle, Schwendener, en regardant au microscope, s'est aperçu qu'il y avait des petits filaments translucides qui ressemblaient à ces filaments de champignons dont je parlais tout à l'heure, et puis des petites cellules rondes et qui étaient vertes et qui ressemblaient beaucoup à des petites cellules d'algues unicellulaires. Et il a proposé l'hypothèse que ce soit ce que proposait notre collègue, une association entre les deux. Bon, au début, tout le monde était mort de rire, bien sûr, parce qu'un lichen, c'est
algue,
un lichen.
Algues et champignons, c'est ça ?
Associés ensemble, mais complètement intriqués, quoi. L'algue prise dans les filaments du champignon et le tout formant la structure massive qu'on connaît. Et petit à petit, ça va percer. Ça va être un des exemples pivots qui vont faire émerger le concept de symbiose à la fin du 19e. Symbiose, ça veut dire vivre ensemble en grec. C'est un dénommé de Barry, un allemand, un chercheur allemand qui va faire émerger cette idée, à savoir que des fois, les organismes vivent ensemble. Et par-dessus ça, va petit à petit aussi émerger l'idée qu'on peut vivre ensemble et à bénéfice réciproque. Et aujourd'hui, c'est le sens qu'a symbiose en français. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'en fait, il y a des coexistences qui sont importantes pour les partenaires. Comme disait cette lichénologue...
Lichénologue, tiens, ben je connaissais pas ça. Ouais.
Oui, ça existe.
Ouais.
Et bien, comme elle disait, l'algue et le champignon se protègent, ils peuvent vivre dans des conditions hostiles. Le champignon est nourri par l'algue en sucre, mais il lui ramène de l'eau et des sels minéraux. Vous voyez, on a une interaction qui est à de multiples niveaux à bénéfice réciproque. Et ça, ça émerge tard dans l'histoire des sciences. Le concept émerge à la fin du 19e, et c'est maintenant au début du 21e qu'on se dit « Oh, mais au fait, c'est partout pareil !»
Donc tout fonctionne de la même manière. Sur cette symbiose, justement, ou pas?
Ce mécanisme, effectivement, ouais. Qu'une bonne partie des interactions est protectrice, nutritive, structurante pour ce qu'on observe. Mmh. Oui, c'est une règle. C'est comme le fait que tout le monde peut tomber malade.
Ouais.
Tout le monde est aussi en symbiose.
Mais alors, qui nous dirige, au fond, Marc-André Sellos? Est-ce que c'est les microbes qui pilotent absolument toute notre machine ou pas? Qui est le maître à bord?
Indubitablement, il la modifie. Ça, c'est clair. On parlait tout à l'heure des microbes qui peuvent, par exemple, modifier l'humeur. Mm-hmm. Eh bien, on sait que quand on a donné du yaourt à une population de personnes et puis un placebo qui ressemble à du yaourt, mais sans microbes, à une autre population, qu'on leur montre des images atroces, qu'on fait un électroencéphalogramme, on voit que les réactions de stress ou de panique sont beaucoup atténuées quand on a mangé du yaourt. C'est tout bête, mais ça veut dire qu'effectivement, quand on est colonisé par certains microbes, on se comporte pas pareil. Donc effectivement, y a des perspectives d'action monstrueuses, hein, évidemment. Et surtout, il y a cette idée que il y a un terrain nouveau. On n'avait pas envisagé ça avant. Et donc, en allant creuser par là, on a des pistes de compréhension et d'action nouvelles. Alors attention, il ne faut pas se précipiter sur les premières pilules qui vont sortir pour soigner les chats ou soigner les hommes avec des microbes, parce qu'il y a aussi des effets secondaires à craindre. Il faut encore creuser ça. Mais aujourd'hui, pour la science, c'est une vision nouvelle du monde qui peut déboucher sur de nouveaux moyens de prendre en main la réalité et demain de proposer aux citoyens des façons de se nourrir et de se soigner plus intelligemment.
Nous ne sommes jamais seuls, nous les humains, mais les plantes non plus, et les herbivores non plus, la preuve avec cet extrait du documentaire passé dans l'émission Xinu sur Arte.
La particularité des ruminants, c'est qu'au fil de leur évolution, qui s'est faite sur plusieurs millions d'années, ils ont développé un système digestif compartimenté, colonisé dès la naissance par une population microbienne. Et pour l'hôte, c'est-à-dire la vache ou le mouton, ces micro-organismes sont en mesure de remplir des fonctions digestives essentielles.
Voilà, Marc-André Sellos, la vache par exemple, grande consommatrice de microbes?
Ben, paradoxalement, oui. Bon, la vache, hein, c'est un animal qu'on a l'habitude de voir ruminer en regardant passer les trains, justement. En fait, quand elle mâchonne, elle fragmente l'herbe qu'elle a mangée, mais cette herbe, elle ne la digère pas. D'ailleurs, regardez une bouse de vache, vous verrez, il y a plein de fragments d'herbe complètement pas digérés. Ils sont tout petits, ils sont fragmentés, mais ils sont pas digérés. En fait, la vache nourrit une grande poche qu'on appelle le rumen, qui représente jusqu'à 15% du volume de son corps, qui est pleine d'eau et de tissus végétaux qu'elle a ingérés, et où se développent des bactéries, des champignons, et en plus, des petits unicellulaires qui mangent tout ce monde-là. Et elle filtre, en fait, ces microbes, et en fait, sa rumination, c'est juste la façon dont elle imprègne de liquide les débris végétaux en les fractionnant pour les préparer pour ces microbes. Elle prépare la nourriture. Mmh. Or, il y a même mieux. La vache n'émet pas d'urée ou de phosphate dans son urine. Elle met tout dans sa salive parce que ça va être un fertilisant pour ces microbes. Et elle, au niveau de son estomac, elle filtre des microbes, et c'est ces microbes qu'elle va digérer et qui vont être vraiment ce qu'elle sait digérer elle-même. Alors, elle se nourrit aussi d'ailleurs des déchets fermentaires, ces composés qui font un peu l'odeur de la vache, de ces microbes, et au total, la vache se nourrit de microbes.
Donc, c'est une pré-gastrique.
Hein,
c'est ça. Elle est dans ce club des pré-gastriques. Il y a beaucoup d'autres animaux comme elle. Je crois qu'il y a une baleine aussi qui est dans la baleine à fanon, c'est ça?
Alors, il y a beaucoup d'herbivores, effectivement, ouais, qui entretiennent des microbes, qui digèrent. Hein, mais alors, il y a un animal qui n'est pas très très loin de ces herbivores-là, mais qui n'est plus herbivore du tout, c'est les baleines qui mangent du krill, donc ouais. des petits crustacés. Et elles ont aussi une poche fermentaire en amont de l'estomac. Mais alors là, c'est un tout petit peu différent, parce qu'elles ne mangent pas d'herbe. En fait, cette poche abrite des bactéries qui détruisent la chitine, qui est cette molécule qui constitue l'emballage des crustacés. Et donc après, les enzymes digestives de la baleine, qui digère alors là vraiment le krill, ouais. vont être plus capables de digérer les crevettes. En fait, elle épluche ses crevettes avec des bactéries.
Et c'est ce qu'on apprend dans ce livre Jamais seul. Vous restez avec nous, Marc-André Sellos. La suite dans un instant avec les questions des auditeurs sur le site de l'émission. Dreams, Fleetwood Mac à l'instant sur France Inter, dans la tête au carré.
Pourquoi y a-t-il autant de bactéries dans la cellule, dans le corps du puceron? Parce qu'elles fournissent au puceron des éléments essentiels à son alimentation. On estime que cette association date d'il y a 100 millions d'années. Cette relation s'est maintenue depuis l'époque des dinosaures. Aujourd'hui, ces deux organismes, le puceron et Buchnera, forment quasiment une seule entité biologique.
Voilà, extrait d'un documentaire « Ces microbes qui nous gouvernent », Marc-André Sellos. Alors les exemples aussi hein, avec les insectes sont très nombreux. Juste un mot, quelle est la différence entre la symbiose et le mutualisme?
Ah, alors, bon, ça se recouvre, mais c'est pas exactement la même chose. Symbiose, ouais. C'est vivre ensemble à bénéfice réciproque. Le mutualisme, c'est quand l'interaction se fait à bénéfice réciproque. Vous pouvez très bien avoir une interaction à bénéfice réciproque avec un organisme avec lequel vous ne vivez pas. Mmh. Quand un insecte pollinise une fleur, c'est pas une symbiose, mais c'est un mutualisme. Voilà. Donc le mutualisme, c'est l'ensemble des cas où les interactions sont à bénéfice réciproque, même si les deux partenaires ne sont pas scotchés ensemble. Ouais. Par exemple, moi je suis en mutualisme avec les microbes qui font du fromage.
Ah oui, c'est vrai.
Je ne vis pas avec.
Oui.
Mais quelque part, les sociétés qui font du fromage nourrissent ces microbes en leur donnant du lait, et eux, ils nous nourrissent en faisant du fromage.
Et chez les insectes, alors, on a d'autres exemples intéressants ?
Eh bien oui, on entendait là une histoire assez amusante qui montre à quel point, finalement, un organisme peut être capable de vivre sa vie et de vivre sa niche écologique uniquement grâce à des microbes. Les pucerons, parce qu'il y a des milliers d'espèces qui sont concernées, vivent à partir de la sève des végétaux. Et la sève, c'est plein de sucre. Bon, ça c'est très bien. Ça contient pas beaucoup d'acides aminés. Et en plus, ça manque de ces acides aminés dits essentiels que les animaux ne savent pas fabriquer et qu'ils doivent trouver dans leur alimentation. Or, le puceron ne vit que de sève. Et donc, c'est grâce à des bactéries qu'il a pu s'adapter à cette niche écologique. D'ailleurs, derrière l'hyperdiversité des insectes se cachent très souvent des microbes qui les aident à s'adapter à des conditions de vie infernales. Et ces bactéries, il y en a plus de 6 millions dans un puceron d'un demi-milligramme. Quoi. Mmh. C'est absolument infernal. Et en fait, ces bactéries synthétisent les acides aminés qui manquent dans la sève et des vitamines. Et donc le puceron se retrouve avec un complément alimentaire grâce à ce que fabriquent ces bactéries. Mais ce complément alimentaire, il est embarqué parce que, comme les mitochondries dont on parlait tout à l'heure, ces bactéries sont devenues héréditaires. Elles sont transmises par la maman puceron à ses enfants par le biais de l'ovule. Et donc, c'est vraiment un plug-in génétique, c'est-à-dire qu'il a rajouté à son génome le génome d'une bactérie qui est co-transmise et avec il a gagné des caractéristiques qui lui manquaient pour occuper sa niche écologique.
Chez les animaux qui mangent les crottes, par exemple, qu'est-ce qui se passe alors, pareil, chez les coprophages? Parce que là, il y a plein d'exemples assez rigolos. Il y a le lapin, par exemple, qui mange ses crottes. Pourquoi il fait ça, lui? Parce qu'en plus, il les sélectionne. C'est pas n'importe quelle crotte qui sont mangées. C'est très sophistiqué comme cette histoire.
Tout à l'heure, on avait la vache qui fait des microbes en amont du transit dans l'estomac qui donc va pouvoir les digérer. Il y a d'autres organismes qu'on appelle les post-gastriques, vous parliez tout à l'heure de pré-gastriques.
Oui, oui.
Les post-gastriques, eux, ils ont une poche très développée dans laquelle il y a des bactéries qui fermentent et qui libèrent de la nourriture. C'est ce qu'on appelle le cécum et c'est l'équivalent de l'appendice chez nous. Mais chez nous, c'est pas très développé. Et le vrai problème, c'est que ces microbes, ils vont être expulsés avec les crottes, ils vont être perdus. Certains animaux, comme le lapin, font des crottes molles qui sont en fait des vidanges du cécum, qui sont différentes des petites crottes rondes qu'on connaît, et qu'ils vont remanger. C'est pour ça qu'on ne les trouve jamais, ces crottes molles. Et donc, ils vont en fait remettre ça en amont dans le tube digestif. Ces crottes molles ont une teneur en acides aminés qui est jusqu'à 10 fois supérieure à l'alimentation normale. Enfin, c'est des compléments alimentaires, là encore, mais qui sont fabriqués à l'intérieur du tube digestif. Et manger des crottes pour un lapin, c'est un signe de bonne santé.
C'est ça, il y a un recyclage de la crotte, alors tout à fait efficace chez le lapin.
Exactement.
Apparemment.
Alors, je ne vous encourage pas à faire pareil, parce que le lapin a coévolué avec ses microbes et est capable de manger.
Merci du Par contre, quand je vois mon chien qui mange des crottes, est-ce qu'il peut le faire pour une raison comme celle-là ou pas?
Alors là, j'ai pas étudié la physiologie du chien en détail. J'aurais tendance à penser que, d'une façon générale, quand même, dans les fesses, il y a pas mal de déchets réutilisables. Et on parle souvent du phosphate pour les crottes de chien. Enfin, pardon, pour la consommation de crottes par les chiens. Je sais pas ce qu'il en est. En tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut pas considérer les microbes comme quelque chose d'absolument dégoûtant a priori. Parce que nous sommes composés avec eux. Et ce serait une forme de dégoût de nous-mêmes que de considérer qu'a priori, ouais, tout ce qui est petit est dégueulasse.
Bon, et puis il se manifeste quand même, sous différentes façons, on le disait tout à l'heure, sous la forme d'odeur en particulier.
C'est vrai que moi, ma peau ne sent pas, ce sont mes microbes qui sentent. Je n'émets pas de flatulence, ce sont mes microbes qui émettent des gaz.
Ils font le boulot à votre place.
Et il y a une présence effectivement olfactive qui est claire des microbes. On parlait aussi de l'odeur de la vache tout à l'heure, oui, qui est l'odeur de ces microbes. Alors c'est vrai qu'on a un peu l'habitude d'associer les microbes à ces mauvaises odeurs. C'est un point supplémentaire qui a connoté négativement microbes. Moi j'ai voulu utiliser microbes dans le livre pour dire qu'au-delà de toutes ces connotations, c'était la colonne vertébrale aussi de tout ce qui se passe bien et qu'il faut retrouver ce que j'appelle une saleté propre. C'est-à-dire admettre qu'un certain niveau de contamination du tube digestif, de la peau, aide par exemple un enfant à développer un système immunitaire normal, qu'un certain degré de contamination de nos aliments les protège de contamination pathogène.
Mais c'est vrai, on vous posait la question tout à l'heure, on se disait devant le micro devant lequel nous parlons aujourd'hui, il y a une bonnette là qui est là, une petite mousse, qui est pleine de microbes, évidemment. Vous nous dites, on vit très bien avec ça, la preuve c'est qu'on n'est pas malade au quotidien, et pourtant c'est probablement bourré tout un tas de microbes.
Je ne connais pas de maladie professionnelle liée à la bonnette.
Ouais.
Après, il ne faut pas la mâcher non plus. Je veux dire, c'est évident que c'est
quelque chose. On s'adapte en tout cas à ces conditions environnementales.
Mais effectivement, ça fait des millions d'années. Enfin, il faut dire les choses en face. qu'on ne se lave pas les dents et qu'on ne prend pas de douche. C'est quand même quelque chose de moderne. Quelque part, ça a amélioré notre condition parce que ça a éliminé les mauvais microbes. Mais ce dont on se rend compte, c'est que l'excès d'hygiène a aussi enlevé ceux qui ordinairement luttent contre les invasions, ordinairement nous aident à nous nourrir et à fonctionner correctement. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, la marge de progrès, c'est d'en faire revenir les microbes.
Voilà, ce sera le prochain combat à mener, militer pour les microbes. Mais je crois que le message est en train de bien passer quand même, un petit peu partout. Hein. Grâce à vous, entre autres, Marc-André Sellos, avec cet ouvrage, « Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». Ça s'appelle « Jamais seul », c'est chez Actes Sud et c'est postfacé par Francis Allais. Merci beaucoup, d'être venu nous en parler cet après-midi dans La Tête au Carré.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec Le Supplément, Sciences et médecine du monde.
Et le retour de Pierre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et vous avez choisi de nous parler d'appétit pour ce retour.
Oui Mathieu, à l'heure où nos auditeurs sont en train de digérer difficilement leur cassoulet aux huîtres, ce n'est peut-être pas le bon moment pour parler de Boostify, mais tant pis. Je veux évoquer avec vous une étude de deux chercheurs japonais publiée en mai qui s'intéresse à un comportement subtil lié à la nourriture. Plusieurs travaux ont en effet montré que quand on est attablé à plusieurs, les plats semblent meilleurs aux convives qui en ingurgitent de plus grandes portions que quand ils mangent tout seuls. Alors, les spécialistes parlent de facilitation sociale. Cette version alimentaire de l'émulation n'est pas nécessairement liée à la convivialité. Une étude a mis en évidence que deux parfaits inconnus qui ne s'adressent pas la parole consomment plus de chocolat ensemble que seuls. Pour ma part, si vous me laissez tout seul avec la tablette de l'autre, ce sera mieux, mais bon. Nos deux scientifiques se sont donc posé la question suivante. Quelle est la présence minimale requise pour que cet effet vis-à-vis de la nourriture se déclenche?
Alors, on lance ce genre d'étude pour faire manger plus ou pour faire manger moins? C'est quoi le but exactement?
Bonne question Mathieu. Alors, en plus d'assouvir leur curiosité naturelle, ces deux chercheurs s'attaquaient à une problématique liée au vieillissement marqué de la population nippone. Une grande partie des Japonais âgés mangent en solitaire, ce qui entraîne souvent dépression et perte d'appétit. Comprendre le phénomène permettrait donc de résoudre un vrai problème de santé publique. Alors pour tester tout ça, on a convié des sujets de 65 à 74 ans, en bonne santé, sans problème cognitif, ni allergie, ni trouble alimentaire. On les a conviés à deux expériences qu'on leur a présentées comme des dégustations. Dans la première, ils s'attablaient soit devant un miroir, soit devant un écran plat qui montrait le mur de la pièce où ils se trouvaient. On leur servait deux types de pop-corn qu'ils étaient chargés d'évaluer, de noter, avec la possibilité d'en avaler autant qu'ils le souhaitaient. Dans la seconde expérience, il n'y avait plus de miroir, l'écran était systématiquement présent, mais il montrait soit une photo du cobaye en train de manger, soit toujours le mur.
Et le résultat, qu'est-ce que ça donnait?
Et dans les deux cas, les chercheurs ont constaté que quand les sujets mangeaient face à eux-mêmes, avec eux-mêmes, ils avalaient plus de pop-corn et qu'ils le trouvaient meilleur quand ils étaient face au mur. Alors pour s'assurer la validité du phénomène, les chercheurs ont reproduit le premier test avec de jeunes japonais d'une vingtaine d'années et n'ont constaté que très peu de différence dans les résultats. La facilitation sociale ne serait donc pas si sociale que ça, puisqu'un simple reflet de soi-même suffirait à la déclencher. Toute la question est maintenant de savoir si les maisons de retraite vont investir massivement dans des miroirs pour que leurs pensionnaires mangent mieux.
Voilà, manger des pop-corns avec Narcisse. On retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde, qui sort aujourd'hui, Pierre. Quoi d'autre au menu du supplément à ce sujet?
Cette semaine, le grand dossier est consacré au blob, étrange organisme dont vous avez déjà parlé dans La Tête au Carré, un unicellulaire géant qui fascine les biologistes.
C'est donc cet après-midi dans Le Monde. Merci Pierre et à la semaine prochaine pour la dernière chronique de la saison.